Et je vais lire Exode 11. Je vais vous lire Exode 11 pour introduire ce moment d'enseignement. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et même, il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple. Que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné de ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. » De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais de semblable. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous les hauts fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant « Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, oui, je partirai. » Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. » Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence du Pharaon, mais l'Éternel rendit son cœur obstiné, de sorte qu'il ne laissa pas les Israélites quitter son pays. »
Bonjour, chers frères et sœurs. Merci d'accepter la convocation solennelle pour rencontrer le Seigneur et rencontrer les frères et sœurs dans la communion. Je suis touché de cette possibilité de relation surnaturelle. C'est un don de Dieu. Et nous avons déjà pu évoquer la grandeur de l'Éternel, sa sagesse, sa toute-puissance. Benjamin ignorait le sujet du message de ce matin, mais il a lu un psaume sur les jugements de Dieu. Et nous voyons dans ce psaume que les jugements de Dieu ne poussent pas le peuple de Dieu à larmoyer, mais au contraire, ce psaume exulte de joie, de délivrance, parce que la grandeur de l'Éternel accomplit ces choses pour le bien de chacun, le bien de la création, le bien des enfants bien-aimés. Alors nous sommes dans ce chapitre de l'Exode, en plein dans ce sujet. Merci pour cette lecture. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette lecture, puisque nous sommes au 11e chapitre, que nous avons lu ensemble ces chapitres les uns après les autres, et dans le fond, nous n'avons pas appris grand-chose ce matin. Le scénario n'a pas avancé. Alors, est-ce que Dieu inspire ses serviteurs écrivains, en l'occurrence, c'est Moïse, à répéter vainement des pensées? Certainement pas. Et avant d'en parler, j'aimerais lever encore une autre difficulté. Dimanche dernier, Tony nous a développer les pensées du chapitre 10 qui se termine avec ces mots au verset 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ta présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Et voilà que dans le chapitre suivant, il est de nouveau en présence de l'Éternel. Où est la difficulté? Pardon. Moïse est de nouveau en présence de Pharaon. Merci. Où est la difficulté? Ben, notre cerveau a besoin de chronologie. Notre cerveau occidental. On est dans une culture comme ça, où un texte doit être chronologique. Ce qui arrive à un moment donné doit être écrit avant ce qui arrive après. Mais pour l'oriental, ce classement chronologique dans sa tête n'est pas aussi impérieux. Et c'est peut-être une difficulté entre ces différentes cultures pour apprécier les textes les uns des autres. En réalité, ce morceau de l'histoire, on devrait l'intercaler au chapitre précédent entre le verset 25 et le verset, entre le verset 26 et le verset 27. Il devrait être placé là. Mais l'auteur a voulu le sortir du contexte comme le mettre en exergue. Et il en a fait un chapitre à part, qui en quelque sorte représente un résumé de tout ce qui s'est passé pendant les 10 entretiens de Moïse avec Pharaon. C'est comme si on avait un procès-verbal synthétique pour dire voilà d'où on est parti, voilà où on arrive, voilà où en est la situation. Et alors si on se met dans cette optique, on voit clairement que la position de Pharaon n'a pas évolué. Pharaon n'a cédé en rien. On voit que la parole de l'Éternel s'accomplit. Tout ce que l'Éternel avait annoncé s'accomplit fidèlement. Peut-être aux yeux du peuple d'Israël, lentement, parce qu'on a vu dans quelques chapitres précédents qu'Israël s'impatientait en disant à Moïse, mais depuis que tu vas voir Pharaon, notre situation a empiré. Mais Dieu accomplit ses plans pas à pas. Et puis, donc, il s'en dégage le principe de l'endurcissement du cœur de Pharaon, mais qui est un principe spirituel qui peut atteindre tout être humain. On y reviendra. Et puis, on voit le principe du jugement. Dieu juge Pharaon, c'est évident, mais ce n'est pas un modèle de jugement exercé juste sur Pharaon, c'est un modèle universel de Dieu. Ses jugements sont justes, c'était dans le psaume que nous avons lu, les jugements de Dieu traversent toute l'Écriture. Donc j'aimerais que nous arrêtions brièvement d'abord sur l'endurcissement du cœur de Pharaon. J'aimerais lire cette citation. Elle est tirée dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul au sujet de la venue de l'homme d'iniquité, l'Antichrist, qui arrivera dans les temps de la fin. Et pour cette génération-là, qui aura suivi l'Antichrist, il est dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc Pascal, il y a 15 jours, nous a déjà parlé de cet endurcissement. Et il l'a fait avec beaucoup de précision, mais j'aimerais juste confirmer ce que nous avons déjà entendu. C'est quelque chose d'extrêmement solennel. Effectivement, Dieu n'a pas choisi Pharaon pour l'endurcir pour en faire son objet, mais l'attitude de Pharaon l'a égaré jusqu'au point où il s'est endurci et qu'à un moment donné, comme nous le lisons dans ces passages, Dieu l'a livré à ses sentiments d'hostilité. Dieu l'a livré, l'Écriture dit, à ses sens réprouvés contre Dieu jusqu'à ce qu'il aille au bout. Et c'est quelque chose de solennel parce que ça touche tout humain. Voilà pourquoi Dans l'Épître aux Hébreux, j'ai relevé ce passage. Aujourd'hui, si vous... L'Épître aux Hébreux, je crois que j'ai dit Romains. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Vous voyez, dans ce passage, l'endurcissement, c'est cette propre justice qu'on met en avant et qui empêche Dieu d'apporter sa consolation, sa paix, sa grâce, parce que dans l'endurcissement, on maintient ses positions personnelles en pensant que mes positions sont bonnes, elles sont justes, je les défends. Et puis, alors, on s'enfonce dans un système terrible qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons. On voit, excusez-moi l'image très terre-à-terre, mais si vous grattez un peu votre jardin, vous vous serez trouvé une fois ou l'autre en butte avec des racines de liseron. Et vous savez que c'est quelque chose de terrible. Il ne suffit pas d'arracher le liseron pour en être débarrassé. Il faut absolument prendre une pioche, il faut creuser, il faut aller jusqu'au bout de la racine. Parce que si vous laissez 5 mm de racine de liseron à 30 cm de fond, vous aurez un champ de liseron dans quelques années dans votre jardin. Il faut absolument piocher profond pour extirper cette herbe désagréable. Alors le liseron, ce n'est pas grand-chose, mais l'amertume de nos cœurs. Et le Seigneur emploie cette image. Et tout en étant croyant, on peut se laisser envahir par l'amertume. Parce qu'on a été blessé par un frère, parce qu'on a été incompris, parce qu'on a été négligé, parce que l'autre n'a pas fait attention à nous. Et puis on rumine, on ressasse. On est dans notre droit, on a raison, l'autre a tort, il ne veut pas le reconnaître. Et on entretient cette amertume qui pousse des rejetons parce qu'on en parle. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu es témoin, n'est-ce pas? N'est-ce pas que j'ai raison? Et puis, la racine se développe, elle prend effet dans le cœur des frères et sœurs et l'Écriture le dit bien, et que plusieurs en soient infectés. C'est quelque chose de solennel, qui est de la même nature que l'endurcissement. Alors, Pharaon avait un endurcissement plus profond, puisqu'il l'a complètement privé du salut, mais tout en étant sauvé par grâce, on peut être victime de l'endurcissement. Alors que Dieu puisse travailler nos cœurs et nos consciences, que nous puissions mettre cela devant Dieu, laisser la pioche de Dieu aller au fond des choses. J'en ai besoin parce que je ne suis pas exempt de ces problèmes. C'est notre nature humaine qui le veut, c'est notre orgueil naturel, c'est notre état naturel de rébellion qui produit cela. Mais Dieu veut nous en délivrer. J'ai lu récemment ceci au sujet de l'amertume de la part de Neil Anderson dans un de ses livres. Il dit « Quand vous nourrissez l'amertume, c'est comme si vous absorbiez un poison en pensant que ce poison va faire du mal à l'autre. » C'est complètement stupide, n'est-ce pas? Mais c'est bien comme ça. On pense qu'en ressassant nos droits, notre vérité, on pense que peu à peu, ça va faire réfléchir l'autre et que l'autre va comprendre. Mais si ça se trouve, l'autre s'en aperçoit même pas. N'empêche que pendant ce temps, le poison, il agit dans mon cœur. Alors que Dieu nous en délivre. Et je pense que Pharaon est un modèle de toutes ces choses. Maintenant, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et nous voulons comprendre que ce livre de l'Exode ne nous parle pas seulement de l'histoire d'un peuple. Ce n'est pas seulement l'histoire des descendants d'Abraham. Voilà, c'est historique, ça s'est passé comme ça, comme l'histoire de France, et puis cette page est bouclée. Pas du tout. Que nous dit l'Écriture? Eh bien, elle nous dit, et j'aime beaucoup cette citation de Romains 15, 4, elle dit « Tout ce qui a été écrit d'avance, donc l'Exode aussi, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, ah oui, notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » C'est magnifique, n'est-ce pas? Tout ce qui a été écrit d'avance doit nous instruire pour que nous cheminions dans la grâce de Dieu. Que ces passages produisent la patience. Oui, le peuple d'Israël a dû patienter. À un moment donné, Moïse arrive et il dit « Voilà, Dieu va vous délivrer. » Et puis les semaines passent, les mois, on ne sait pas combien de temps. Et puis la situation arrive même à empirer. Mais alors, d'ailleurs ça va continuer. Le peuple d'Israël, j'anticipe, mais il reste 40 ans dans le désert à se morfondre, à tourner autour de lui parce qu'il n'a pas appris la patience. Et il continue de dire, ouais Dieu, tu as dit que tu nous libérerais, mais regarde où nous en sommes, on était mieux en Égypte. C'est terrible de lire ça. Ça n'a pas été écrit pour que nous en ayons connaissance, ça a été écrit pour que j'en sois instruit. Est-ce que je laisse l'impatience m'envahir ou est-ce que j'apprends par ces écrits que la patience, c'est le fruit de la confiance en Dieu? C'est une instruction pour que la patience m'apporte la consolation. Parce que les épreuves que vivait Israël étaient réelles. L'esclavagisme du peuple d'Israël en Égypte était une réalité. Ce mépris de Pharaon contre Israël, cette dureté, cette méchanceté, il fallait bien la vivre. Ils ont dû apprendre et recevoir de Dieu la consolation avant que leur situation ne s'améliore. Je vous laisse apprécier toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être plongés, situations d'épreuve, de maladie, de deuil, de souffrance, de difficultés professionnelles, de perte d'emploi, de contestation dans la société, dans nos familles, toutes des situations difficiles. Est-ce que nous nous heurtons à l'épreuve ou est-ce que nous développons par l'Esprit de Dieu qui est en nous la patience qui conduit à la consolation? Et puis après, il est dit, la consolation que donnent les Écritures afin que nous possédions l'espérance. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes sauvés en espérance. Je me permets d'ajouter un petit « que ». Nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Personne de nous n'a vu le salut. Et pourtant, nous affirmons que le salut est une réalité, mais nous ne l'avons pas vu. Nous vivons encore dans notre chair. Le salut viendra, sera accompli là, au moment de la résurrection. Nous attendons ce moment avec espoir. Non, avec espérance. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, nous avons la certitude que ces choses arriveront et elles nous permettent de vivre dans la consolation, dans la paix, d'être en étant nourris par la parole, alors que ces chapitres nous aident à nourrir cette patience et cette consolation pour que nous restions dans l'espérance. Et puis ces chapitres nous parlent ainsi, mais ils ont particulièrement l'Exode. A un autre objectif pour nous éclairer. En réalité, c'est la libération d'un peuple qui sort de l'esclavage et qui va s'engager dans des voies nouvelles inconnues, celles du pays promis, celles que l'Éternel a préparées. Et c'est un modèle du cheminement de toute personne qui découvre qu'elle est perdue, qu'elle est sous l'esclavage de Satan, et qui reçoit le salut et la libération accordée en Jésus-Christ pour être conduit dans une vie nouvelle, de laquelle l'apôtre Paul nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, lorsque nous étions dépendants du monde, des pensées du monde, des systèmes du monde, est livrée à la condamnation finale. Ces choses-là sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous cheminons avec Christ et avec cette espérance extraordinaire que nous serons éternellement en sa présence. » Alors, lisez le livre de l'Exode avec, en arrière-plan, ou en avant-plan peut-être, le cheminement de tout croyant. Et chapitre après chapitre, on voit des stages de la vie chrétienne. Et ça va se finir pour Pharaon, par son jugement absolu, qui a tardé, c'est vrai, mais qui est arrivé et qui a été un moment de triomphe extraordinaire. Ça va arriver au chapitre suivant. Voilà, donc, le Seigneur nous invite à actualiser la parole, non pas la lire comme un simple livre d'histoire, mais comme un témoignage de Dieu pour nourrir ma foi, développer ma foi, ancrer ma vie dans les promesses de Dieu et m'apprendre à compter pleinement sur lui. Et puis quelque chose de remarquable aussi, dans ces chapitres et dans ce chapitre 11, je le répète, qui est comme un résumé de la situation à la veille de la dixième plaie, l'Écriture confirme que Moïse, en tant que serviteur de Dieu, est parfaitement au courant de ce que Dieu va faire. Et dans Amos 3:7, vous avez une citation absolument magnifique qui dit ceci, je l'ai bien écrite quelque part. Eh bien non, je vais la chercher. Amos 3:7. Est-ce que ça vaut la peine de la lire telle qu'elle est écrite? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans que l'Éternel... Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est vrai pour les prophètes de l'Ancien Testament, c'est vrai pour les prophètes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et si tu es né de nouveau, tu es devenu un prophète de l'Éternel. L'Éternel met dans ton cœur ses projets. Il te fait participer à ses projets. C'est cela qui nourrit l'espérance. C'est cela qui apporte la consolation. C'est cela qui nous permet de surmonter nos difficultés. Voilà pourquoi c'est important que nous restions attachés à la parole écrite qui nous révèle toutes ces choses. Que Dieu nous encourage à le faire et que nous ne soyons pas des auditeurs passifs. Mais la parole est vivante, elle veut bouleverser nos cœurs et nos pensées, modifier notre schéma de réflexion et nous amener à être attachés au Seigneur. Il ne fait rien sans révéler ses secrets. C'est des secrets pour les gens du monde. Ça n'a aucun sens ce que l'Éternel va faire. Mais pour le croyant, c'est des secrets divins qui lui permettent de surmonter toutes ses difficultés, ses tribulations et d'être dans la joie de sa destinée qui est dans les mains de Dieu. Et puis encore un autre passage qui me touche beaucoup. Dans 1 Pierre 1, il est dit que les prophètes de l'Ancien Testament qui ont reçu révélation de la parole de Dieu, les prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'histoire de Jésus-Christ ne commence pas avec Matthieu 1, ne commence pas avec le Nouveau Testament. L'histoire de la rédemption du peuple de Dieu commence avec la Genèse, au début de la Bible. Et tous les écrits ont été inspirés par Dieu parce que les écrivains avaient en eux, on a bien lu, l'esprit de Christ. Christ n'était pas encore incarné, il n'était pas venu encore à Bethléem, mais il était présent par l'esprit. Et Moïse était un de ces prophètes qui possédait l'esprit de Christ. Et Moïse avait révélation de ce que Dieu allait faire, mais pas seulement pour le peuple d'Israël. Moïse avait certainement révélation du plan de salut pour tout homme, toute femme, parce que Dieu voulait que le salut soit accessible aux hommes de toute langue, de toute tribu, de toute famille, de toute culture. Et c'est là la grandeur de cette révélation. Alors pour nous, que savons-nous de l'avenir de Satan? Parce que, oui, j'ai fait un, faut que je fasse un pas intermédiaire. Si nous avons ici, si nous sommes ici à la veille du jugement de Pharaon, c'est que c'est aussi un modèle du jugement final du monde, mais surtout de Satan. Souvenons-nous que c'est Satan qui sera jugé. Vous savez, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, de certains démons, enfin d'opposants à l'évangile, il leur dit « Allez dans le feu éternel préparé pour Satan et ses démons. » Le feu éternel préparé pour Satan. Quelquefois, nous butons sur l'idée, mais comment un Dieu bon, rempli d'amour, peut envoyer, ce sont nos mots, des êtres qu'il a créés prétendument par amour en enfer. Mais souvenez-vous, l'enfer n'a pas été préparé pour les créatures humaines que nous sommes. En aucun cas. L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Et si nous le voyons sous cet angle, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est plutôt une réjouissance. C'est une espérance de plus. Toutefois, Dieu a créé l'humanité libre, libre de marcher avec Dieu, d'aimer Dieu, ou libre de rejeter l'amour de Dieu et de se concentrer sur soi-même et de devenir l'esclave de Satan. Et c'est ainsi que, je répète, Dieu n'a pas préparé l'enfer pour y jeter des créatures humaines pour l'éternité. Dieu a créé l'enfer pour y mettre Satan, mais Satan a entraîné dans sa suite les anges déchus, c'est comme ça que la Bible dit, des anges qui ont soutenu Satan dans sa révolte contre Dieu, et il les a entraînés dans son jugement, et il cherche à entraîner dans sa condamnation des humains qui refusent la main tendue de Dieu de les sauver. C'est très solennel. Et c'est ainsi que Pharaon est de ceux qui n'a pas tendu la main à Dieu, qui se laisse entraîner et qui est dans le box des condamnés de Satan qu'il entraîne avec eux. D'ailleurs, je fais juste une remarque. Depuis tout petit, nous nous consolons quelquefois quand nous sommes pris en faute en disant « mais j'étais pas tout seul, il y avait lui ». On aime bien la collectivité quand on est jugé. On a l'impression que ça fait moins mal. Mais c'est exactement ce que Satan fait. Il a horreur d'être jugé tout seul. Et il entraîne des hommes, des femmes avec lui dans sa révolte pour ne pas être seul face au jugement. Comprenons cela et ayons aussi une vision équilibré et équitable sur ce que Dieu fait. Maintenant, le Seigneur Jésus nous informe de l'avenir de Satan. Quand il a envoyé les disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume, les disciples sont revenus, il est dit tout content parce que même les démons leur étaient soumis. Et Jésus leur répond ceci, il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Chute brutale. « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Satan est déjà condamné. Et Jésus partage la vision qu'il a de cette personnalité néfaste. Ailleurs, enfin, dans les mêmes pages, hein, c'est dans tout ça dans l'évangile, dans les chapitres 15 à 17 de Jean, dans les mêmes pages, Jésus dit « Le prince de ce monde, c'est bien Satan, est déjà jugé ». Il dit cela au moment où Judas se déclare et que la condamnation de Jésus est entendue. Jésus va être condamné, c'est fait. Et en réponse à cet acte qui aurait pu remplir Jésus d'effroi et puis l'amener à se sauver, Jésus dit « Le prince de ce monde est déjà jugé ». Jésus allait au sacrifice pour juger le prince de ce monde. Et la chose était entendue à ce moment-là. Et puis, l'apôtre Paul confirme cela de manière éclatante. Vous connaissez certainement Colossiens 2,15. Si la référence ne vous dit rien, je vais vous rappeler le texte. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan, ses démonstrations de puissance, sa science, sa sagesse, son autorité, son pouvoir, la Bible dit, il en a été dépouillé, lui et toutes les dominations qu'il avait sous ses ordres. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle. Sa mort à Golgotha a été la démonstration universelle du triomphe de Christ, parce que dans cette mort, il a reçu le jugement qui revenait sur tout homme pécheur, et il est sorti du tombeau 3 jours plus tard pour témoigner que la mort ne pouvait pas l'atteindre et que dans cette résurrection, il entraînait à son sillage dans une vie nouvelle, ceux et celles dans l'histoire de l'humanité qui l'accueilleraient comme sauveur. Et puis une dernière citation de l'apôtre Paul dans ses discours du livre des Actes, dans les villes où il passait, il avait l'occasion de prêcher l'Évangile, et au chapitre 17, il dit ceci, « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Selon la, il faut mettre un L majuscule, et justice avec un J majuscule, la justice de Dieu. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Je trouve ça magnifique comme précision. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. La preuve certaine est là, il sera le juge. Voilà pourquoi il a pu dire, celui qui croit en moi ne viendra pas en jugement. Parce que j'ai pris sur moi ton jugement. J'ai été jugé à ta place. Tu n'auras plus, pas seulement tu n'auras plus besoin, mais tu ne passeras plus devant le trône du jugement. Celui qui croit en moi ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est pas, voilà, de nouveau, la responsabilité de l'homme d'accepter ou de mépriser ou de négliger le plan de salut. Il jugera le monde selon la justice. Permettez-moi de lire quelques versets dans 2 Pierre 3 qui décrivent ce jugement à venir. Faudrait lire les 15 premiers versets, c'est un peu long, mais je vous invite à les lire chez vous, 2 Pierre 3. Je vais me limiter à lire quelques versets à partir du verset 4. Il s'agit des incrédules, des gens qui ont pris de la distance par rapport à l'Évangile. Ils ont entendu l'Évangile, puis ils ont dit « Ouf, l'Évangile hein. !» C'était bon pour nos grands-mères. Il me semble que les générations d'aujourd'hui ont nettement ce discours, n'est-ce pas? Et alors ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà pour exercer notre patience et nourrir notre persévérance. Et puis, mais, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le jugement sera terrible, puis en même temps, la patience de Dieu est à l'œuvre, parce qu'il voit une génération, il dit, si j'interviens aujourd'hui, je vois un tel qui est perdu, je lui donne du temps, parce que je ne veux pas qu'il soit perdu. C'est pas, c'est bien écrit comme ça. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et moi, j'aimerais juste ajouter cette parole un peu triviale, à bon entendeur, salut. Ce texte me rend responsable, te rend responsable. Et le Seigneur veut absolument nous rendre responsables. Après, il y a la description terrible, ce jour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. À quoi sert cet avertissement? L'apôtre Pierre dit, ayant cet objectif divin devant nous, nous n'allons pas perdre nos forces, notre vie, nos efforts, notre intelligence, à nourrir des objectifs précaires et inutiles. Nous allons nous concentrer sur ce qui est important. C'est cette rencontre avec Dieu qui est importante. Et c'est aussi un appel solennel qui nous est fait. Le jugement de Pharaon s'inscrit dans toute une série de jugements de l'Ancien Testament. Ça a commencé avec le déluge, un jugement terrible. Il y a eu de toute l'humanité, il y a eu le jugement de la tour de Babel, et puis des nations se sont formées. Il y a eu quelques jugements mineurs, enfin importants, mais on va dire mineurs. Et puis, on en est au jugement de Pharaon. Il y aura le jugement des Cananéens, des Amoréens. Dieu va employer le peuple d'Israël pour juger l'iniquité des Amoréens. Et là aussi, il est écrit, mais pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Et l'Éternel répond, il est écrit, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. On est dans ce chapitre où Dieu use de patience. Et puis, alors, on ne va pas tout développer, mais vous aurez le jugement de Nebuchadnezzar contre Israël, qui s'est détourné de Dieu. Et puis, vous aurez le jugement de Babylone par les Mèdes et les Perses, qui eux-mêmes seront jugés par l'Empire grec qui va grandir, eux-mêmes remplacés par l'Empire romain. Et puis on en arrive à nos temps. Nous sommes à un moment de l'histoire où nos législations, nos coutumes, nos mœurs, nos faits et gestes ont été fondés sur les déclarations de l'Écriture. Et puis voilà que depuis le milieu du dernier siècle, on a commencé à revoir toutes nos constitutions, à enlever le nom de Dieu partout où il était, à le gommer, pas seulement le nom de Dieu, mais les intentions de Dieu. Et on en est arrivé à publier des lois iniques qui démontrent qu'on a éradiqué et volontairement l'autorité de Dieu dans nos sociétés. Eh bien, l'Écriture est claire. Quand une société ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, on l'a lu ici dans 2 Thessaloniciens, vous trouvez la même expression dans Romains 1, et Romains 1 est une référence sur cette question, « Parce que les hommes n'ont pas voulu me rendre gloire, je les livrerai à leur sens réprouvé. » Puis les questions de l'homosexualité qui arrivent derrière comme un des faits, un des jugements divins sur des sociétés qui refusent la souveraineté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans la suite du chapitre 1, vous trouverez tout un paragraphe sur les désordres des sociétés qui n'ont pas reconnu la souveraineté de Dieu, en particulier la révolte, la rébellion des enfants, et les violences qui s'installent. Ne sommes-nous pas arrivés dans ces temps-là? Ne sommes-nous pas instruits par la parole comme il est dit, par l'Éternel fait connaître à ses serviteurs son secret. Et comme, alors on peut faire un parallèle, Pharaon a été jugé par l'Éternel, mais par le moyen du peuple d'Israël, et toutes ces grandes nations ont été jugées par des nations, même quand elles n'étaient pas ouvertes aux choses de Dieu, l'Écriture dit... Elles sont à mon service pour accomplir mes jugements. Que voyons-nous aujourd'hui? Ça, c'est pas dans la parole, mais l'histoire nous le prouve. Dans le monde entier, on est obligé aujourd'hui de reconnaître un jugement sur une population qui a dit à Dieu « Non, tu n'as rien à faire dans ma vie, rien à faire dans nos règlements, rien à faire dans notre histoire. » Et je pense que nous devons regarder cela très en face. Très en face. Et j'aimerais juste encore préciser deux allégories issues du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 13, vous avez l'apparition de deux bêtes soumises au dragon. En fait, c'est une anti-trinité diabolique. C'est un triumvirat abominable. Le dragon, c'est Satan. Les deux bêtes sont des êtres maléfiques à son service. L'une de ces bêtes, les descriptions sont terribles, elle a 7 têtes, 10 cornes, voilà. Il ne faut pas essayer de se les représenter, mais c'est autant de symboles. Alors, toutes sortes d'interprétations circulent au sujet de ces bêtes, mais une d'elles me touche et me paraît intéressante. Cette bête aux 7 têtes, il est dit qu'elle a reçu un coup mortel. Elle est anéantie, c'est terminé. Et puis, elle revit quand même. Et elle reçoit des coups mortels et elle vit toujours. Je répète, une des interprétations tout à fait plausibles, c'est que depuis le début de l'histoire, vous avez de ces puissances monstrueuses qui sont visiblement au service des démons et qui sont toutes abattues, mais qui renaissent. Pharaon va être abattu, mais il va être remplacé par d'autres dictatures néfastes. Et vous avez dans l'histoire ainsi, vous avez une succession de ces têtes. On peut passer par Néron, on peut passer par les histoires de l'Antiquité, Innocent III, etc. Des êtres particulièrement maléfiques qui ont été abattus. Et je pense que chaque fois on a dit c'est terminé maintenant, plus jamais ça. On est arrivé au nazisme. Hitler, qui pensait fonder un empire millénaire, n'a duré que 15 ans. La bête a été abattue, on s'est réjoui partout dans le monde. Plus jamais ça avons-nous entendu. Et pourtant, les génocides dus au communisme ont continué de manière atroce, peut-être pire que ce que le nazisme a accompli. On a eu ces tueries en Chine, sous Mao. On a vu cela au Cambodge, on a vu cela au Rwanda, on a vu cela dans les Balkans, à des échelles différentes. N'empêche que cette bête qui est chaque fois abattue, elle est toujours d'actualité. Et ne nous y trompons pas, les sociétés humaines croient qu'elles vont régler les problèmes politiquement, socialement, matériellement. La description de l'Apocalypse est terrible. Elle nous instruit. Et la deuxième bête, elle est toute différente. Elle a l'aspect d'un agneau, mais elle parle comme le dragon, non pas pour rugir, mais pour susurrer des paroles doucereuses. En fait, c'est l'image du faux prophète. C'est l'image de la vérité spirituelle biaisée. C'est le faux prophète. Et puis en même temps, l'intox d'une doctrine qui serait acceptable. Mais mes amis, le problème, il est spirituel, il est d'une occupation des cœurs et des pensées de l'esprit de destruction. Et nous devons aujourd'hui faire face à ce triumvirat. Non pas pour trembler, non pas pour nous liquéfier devant lui, mais simplement pour savoir que l'enjeu est spirituel et c'est le moment de confirmer notre position en Christ. Nous lisons quand même clairement que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. J'aimerais... Voilà, Jésus, en parlant de ces temps, il a aussi dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus que faire. » Aujourd'hui, les nations ont encore l'illusion de penser qu'en se rassemblant ici, qu'en se rassemblant là-bas, on va y arriver. Mais le moment vient où les nations ne sauront plus que faire, c'est écrit. Alors, est-ce qu'il est dit, cela est-il écrit pour que le peuple de Dieu se décourage, pour qu'il rentre chez lui, qu'il ferme les volets, ferme la porte, fasse la grève de la faim et attende que le cataclysme final arrive. Que dit Jésus dans ce même contexte? C'est dans le même passage où il dit « Les nations ne sauront plus que faire ». Il dit aux disciples « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors, j'aimerais pas qu'on reste sur une note négative. Au contraire, je crois que plus l'avenir devant nous est sombre, plus l'espérance est vive et plus la délivrance est grande. Pensez à Israël à la veille de la dixième plaie. Ils pouvaient être dans l'angoisse. Encore qu'ils avaient eu pendant 9 plaies. La preuve que la colère de Dieu atteignait Pharaon et son peuple, mais que le pays de Gozen où habitait Israël était à l'écart. La dernière plaie, il a fait nuit sur toute l'Égypte, mais il y avait la lumière sur le pays des Israélites, au cœur de la nation d'Égypte. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Jésus n'a-t-il pas dit « Vous êtes la lumière, je suis la lumière du monde, pardon, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc je n'ai pas voulu ce matin nous entraîner à entrer dans les ténèbres, à nous mettre un bandeau sur les yeux et puis gémir dans notre coin. Pas du tout. Que ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que la délivrance approche. Je pense que le peuple d'Israël, avant cette dernière plaie, et au cours de la dernière plaie, il devait être dans une exultation, dans une adoration de Dieu, dans une joie de voir la différence que Dieu faisait entre celui qui était condamné et eux qui étaient graciés, qui devait leur donner une stimulation magnifique. Dieu aimerait voir son peuple debout, stimulé, réjoui des œuvres de l'Éternel. Je répète, le psaume que nous avons entendu, il est question des jugements de Dieu qui nous remplissent de joie. Dans l'Apocalypse, quand les jugements de Dieu sont mentionnés, il est dit que les créatures dans le ciel applaudissent Dieu, louent Dieu, se réjouissent parce que ses jugements sont justes. Mais que nous soyons dans cette attitude, que l'espérance soit notre partage, nous savons où la puiser, que Dieu nous donne de le vivre. Amen. Avec Catherine, dans la faiblesse de nos moyens, nous allons essayer de vous chanter un vieux cantique. Catherine le découvre, mais elle est docile. Et puis, moi, je l'ai entendu dans ma jeunesse, mais je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Je vous invite à écouter.
Car ses jugements véritable. Il a frappé Jésus pour sauver.
J'aimerais prier. Seigneur, tes jugements sont terrifiants pour tous ceux qui ont rejeté ta main tendue du salut. Mais ils sont aussi la délivrance pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Nous le voyons dans ce livre de l'Exode de manière magnifique. Tu le rappelles tout au long de ta parole. Tu nous le redis dans les évangiles, tu le précises dans le livre de l'Apocalypse. Tu ne nous parles pas de ces choses pour nous terrifier, tu nous en parles pour nous réjouir de tes œuvres. Alors nous voulons ensemble t'adorer, te louer, parce que tu es un Dieu parfait, parce que tu accomplis fidèlement ta parole. J'aimerais te prier pour ceux qui sont aujourd'hui dans la tourmente à cause de ton nom. Nous pensons à tous ces croyants qui sont dans des zones d'intolérance. Nous te prions de les encourager, de les garder fidèles, d'accepter leur situation en se confiant en toi et qu'ils trouvent auprès de toi la joie de persévérer. Je te demande pour nous qui vivons dans un contexte plus facile, mais qui sommes aussi accessibles à l'ange de lumière. Garde-nous d'être séduit par des fausses doctrines, d'être séduit par les idées d'aujourd'hui qui conduisent au matérialisme qui lui-même est fait pour éradiquer ton nom. Entretiens dans nos cœurs la vision que tu es le Dieu absolu, le Dieu créateur, le Dieu sauveur et que tu trouves chacun de nous fidèle, debout devant toi, heureux de t'appartenir et qui ont reçu la vocation de te servir. Accomplis toutes ces choses par ta grâce, à cause de ton amour pour nous et parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Amen.